On va prier pour demander au Seigneur qu'il ouvre nos oreilles pour entendre sa voix. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur, tu nous as laissé ta parole pour nous instruire, nous aider à connaître le chemin qui conduit à la vie éternelle. Et bon, parce que, Seigneur, tu veux encore nous équiper ce matin, nous instruire selon ta parole. Seigneur, conduis ces instants, dirige-les, et que nos oreilles soient grandes ouvertes pour recevoir ton enseignement, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse agir dans nos cœurs. Et au travers de moi, Seigneur, je veux me laisser conduire par toi. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais reprendre et continuer un petit peu plus l'enseignement de dimanche dernier sur le royaume de Dieu. Vous savez que cette année, le projet pastoral, c'est bâtir le royaume de Dieu. Donc on passe de l'Église au royaume. Bâtir le royaume de Dieu avec Christ en nous. Ce motto que nous avons retenu implique certaines choses à faire, implique des actions. Dieu veut que nous agissions pour faire avancer son royaume. Mais pour agir, il faut savoir comment agir. Parce que parfois on agit et ensuite on regrette nos actions. Et c'est vrai que nous avons besoin de la parole pour nous guider dans nos actions, pour qu'elles soient efficaces pour l'avancement de son royaume. Donc c'est important de revoir la question du royaume de Dieu. D'autant plus que cet enseignement du royaume est un des plus controversés, je dirais, qui a existé depuis l'origine du christianisme. Et il y a beaucoup de difficultés à comprendre cette notion du royaume, d'autant plus que si on prend un élément de la compréhension et qu'on le pousse jusqu'au bout, ce qui souvent a été fait dans le passé, et je le rappelle rapidement ici, eh bien, on arrive à des explications qui sont mauvaises et des actions surtout qui sont mauvaises. Il y a des actions qui sont très très graves, qui ont été induites par cette incompréhension de la notion du royaume de Dieu, qui font que nous avons carrément des églises entières qui sont basées là-dessus et qui n'arrivent plus à sortir de ça. Alors, très rapidement, qu'est-ce que le royaume et ses différentes interprétations, donc je vais très vite puisque j'en ai déjà parlé l'autre fois. Alors, je prends d'abord les interprétations sur le royaume de Dieu qui sont opposées. Souvent, c'est comme ça qu'on comprend le mieux. Donc, il y a une interprétation qui part sur l'idée que c'est une puissance intérieure. Une puissance intérieure, ce qui n'est pas faux en soi, on le verra dans la compréhension biblique. Mais ça, disons, c'est cette notion s'est développée par des personnes comme Carnac, qui prennent l'idée que le royaume de Dieu prend possession carrément de la personne, alors que c'est pas vrai. La personne reste toujours libre dans son libre arbitre. Et de l'autre côté, c'est Albert Schweitzer qui a décrit cette notion du royaume de Dieu. C'est un règne apocalyptique, c'est-à-dire c'est un règne qui va venir dans la fin des temps. Le royaume de Dieu va venir et va s'installer. Ce qui n'est pas faux non plus, mais pris tout seul, c'est toute une théologie qui est basée là-dessus, par Albert Schweitzer, et qui, là aussi, conduit à une mauvaise compréhension du royaume. Une troisième interprétation, qui a été reprise surtout par l'Église catholique, c'est que le royaume de Dieu est la poursuite, enfin, que l'Église est la poursuite du royaume de Dieu qui a été installé avec Israël. Israël, le royaume de Juda. Et donc c'est l'Église qui reprend la suite. Et c'est saint Augustin qui a développé cette idée, cette interprétation. Et ça conduit à toutes les catastrophes qu'on a connues depuis 2000 ans, au travers de l'Inquisition, au travers des croisades, etc., d'imposer en fait ce royaume de Dieu en termes d'Église, ce qui est faux aussi. Une quatrième interprétation, c'est de faire du monde le royaume de Dieu. Donc là, il y a l'aspect de s'impliquer socialement pour essayer de transformer le monde et d'en faire le royaume de Dieu. Et une autre interprétation, c'est que le royaume de Dieu est quelque chose d'idéal. On ne peut pas l'atteindre, il est idéal. Et ça nous pousse en fait à l'imiter un petit peu, à imiter ce qui est dans la parole de Dieu pour essayer de l'atteindre. Et donc là, c'est tout le développement social qui est basé là-dessus. Alors selon la Bible, il y a effectivement plusieurs facettes du royaume de Dieu. Et c'est l'ensemble de ces facettes qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre le royaume de Dieu, ce qui a été le message central de Jésus. Il a parlé tout le temps du royaume de Dieu. Donc c'est effectivement une réalité intérieure, ce n'est pas une puissance intérieure, c'est une réalité intérieure selon Romains 14, 17. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est cette ouverture au Saint-Esprit pour recevoir le royaume de Dieu en nous, mais c'est une réalité intérieure qui se traduit par notre vie extérieure. Et au travers du baptême, nous témoignons de cette réalité. La deuxième compréhension du royaume, c'est un héritage. C'est selon Matthieu 25, 34, et bien sûr, d'autres versets qui en parlent, c'est que nous héritons. Notre héritage naturel, c'est le royaume de ce monde, c'est la chair, et l'héritage spirituel, c'est le royaume de Dieu. C'est aussi quelque chose que nous héritons parce que nous le recevons, nous l'acceptons. La troisième compréhension, c'est un domaine, selon Colossiens, chapitre 1, verset 13. C'est un domaine où s'appliquent les bénédictions de Dieu. C'est au niveau du royaume de Dieu. Enfin, c'est un royaume qui est futur. Dans 1 Pierre 1, 11, c'est quelque chose qui va venir. Donc un royaume futur, mais c'est aussi un royaume présent qui est aussi actif dans le monde. Par exemple, du levain qu'on met dans la pâte et qui fait gonfler toute la pâte, c'est aussi une illustration qui est prise dans des paraboles que Jésus a prises. Donc vous voyez, c'est une complexité. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, une différence entre compliqué et complexe. Compliqué, ça veut dire que c'est difficile à comprendre. Ce n'est pas le problème d'être difficile à comprendre. C'est le problème que ça touche des choses qui sont du passé, du présent, du futur. Ça touche un héritage, quelque chose qui est intérieur, qui se manifeste à l'extérieur. C'est un héritage que nous recevons. Voyez-vous, donc il faut prendre en compte toutes les facettes de cet enseignement du royaume pour bien le mettre en pratique et pour pouvoir agir correctement. Donc c'est un petit peu l'objet de cet enseignement-là, pour que nous puissions vraiment agir conformément à la parole de Dieu. Alors il y a une clé d'interprétation pour comprendre le royaume de Dieu, et cette clé est basée sur le mot « royaume de Dieu ». La compréhension du mot « royaume de Dieu » pour nous est très difficile, et d'autant plus difficile, bon, d'une part difficile parce qu'il n'y a plus beaucoup de royaumes, beaucoup de rois, il y a beaucoup plus de démocratie que de royauté maintenant. Et même quand les royautés existent, elles sont souvent des monarchies constitutionnelles. Donc en fait, le roi, ça reste une sorte de décoration, un petit peu, enfin, il n'est plus vraiment en règne. Prenez le royaume d'Angleterre, il n'est plus du tout, le roi n'a plus du tout les mêmes pouvoirs qu'il avait il y a quelques années. Donc même si nous cherchons des modèles, en fait, nous ne les trouvons pas tels qu'ils sont décrits dans la Bible. Parce que dans la Bible, quand on parle de roi, Dieu et Jésus qui est roi, ça veut dire qu'il a les pleins pouvoirs. Mais le problème, c'est que nous, Français, en plus, on est un peu rebutés par cet aspect plein pouvoir, puisqu'on en a connu des rois qui ont exercé les pleins pouvoirs et que c'était une catastrophe, forcément, puisque ce sont des rois qui, dans leur cadre naturel dans leur chair, eh bien, faisait beaucoup de dégâts dans leur façon de régner. Et le français, par nature, ne veut plus ça, ne veut plus retourner à ça. Et c'est compréhensible. Mais nous, quand on connaît Dieu, quand on connaît Jésus, nous cherchons à ce que ce roi puisse régner dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pour cela qu'on est là, dimanche après dimanche, pour lui apporter un culte qui lui est agréable. Mais disons, transposer quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est difficile. Hein, c'est un peu comme les personnes qui avaient par exemple des pères qui étaient très très durs avec eux, ils ont du mal à accepter Dieu comme père. Il faut une guérison qui passe par là pour que cette image de père puisse être acceptée dans notre vie. Et de la même manière, au niveau du royaume de Dieu, c'est pareil, notre vécu en tant que civilisation française, c'est quelque chose qui nous empêche d'accéder à cette compréhension, hein, d'autant plus que nous avons coupé la tête du roi et que nous déclarons qu'on ne veut plus du tout avoir affaire avec cette notion de royauté. Donc c'est quelque chose de difficile et pour lequel il faut avoir un bon enseignement. Alors, le mot dans la Bible qui est utilisé ne désigne pas vraiment le domaine, ni les sujets, hein, puisque s'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas non plus d'exercice de la royauté, et ça n'a pas de sens, mais il suggère le règne. Hein. Donc les mots qui, si vous aviez des Bibles écrites en langue originale, que ce soit en hébreu ou en grec c'est malkut, et en grec c'est basiléa. Donc ces deux mots, ils ne renvoient pas vraiment à domaine ou sujet, mais ils renvoient à rang, le rang de quelqu'un, le rang du roi, l'autorité qui est exercée, la souveraineté d'un roi ou la souveraineté d'un gouvernement. Donc ça c'est la première compréhension qui est primordiale dans ce mot basiléa malkut, ou qui est utilisé à chaque fois qu'il est du royaume de Dieu. Et la question du domaine ou des sujets vient vraiment en second plan, très très loin. Pour l'illustrer, dans l'Église, on a fait des petits schémas. Alors certains sont plus ou moins d'accord avec les schémas, parce que c'est un peu stylisé, mais ça montre quand même un petit peu les choses. Donc, on dessine le basiléa un peu comme un triangle, qui est la notion du serviteur, hein, qui vient pour exercer le règne. Donc, le basiléa dans l'Église, c'est les anciens, c'est ceux qui transmettent, hein, le règne de Dieu au travers de la parole en particulier, et le peuple ou le domaine sur lequel s'exerce eh bien, le règne de Dieu. Donc, elle est centrée sur Christ, qui est le roi. Hein. Donc, c'est basé sur la compréhension d'une royauté qui s'exerce, et non pas d'une démocratie. Hein. C'est aussi pour ça que dans la Constitution, on a bien fait la différence entre l'association de l'Église et l'Église. Hein. L'association qui est le reflet de ce que l'État demande pour que les choses fonctionnent sans que ceux qui dirigent l'Église se mettent plein les poches, entre autres, hein, l'aspect de moralité financière ou morale. Le fonctionnement, c'est le fonctionnement d'une royauté. Hein. L'Église doit fonctionner sous le règne de Christ. Un enseignement qui est très intéressant, que vous pouvez relire chez vous, parle de Jésus qui va chercher le royaume. Alors, on verra que c'est le royaume non pas sur toute chose, mais le royaume sur les humains. Et Jésus utilise une parabole qu'il nous enseigne au travers de Luc 19, 12. Donc Jésus dit, un homme de haute naissance, donc haute naissance c'est un noble ou un prince, quelqu'un qui a déjà un certain rang, il s'en alla dans un pays lointain pour investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail de cette parabole, vous pouvez la lire chez vous, elle est plus longue que ces deux versets. Ça parle de... Jésus a pris cette parabole pour montrer que, en fait, le royaume de Dieu, il va se dérouler dans le temps. C'est-à-dire il y a une progression dans l'établissement du règne de Dieu, sur les humains en particulier. Et là, il montre que cette personne de haute naissance, qui est destinée à être roi, en fait, elle quitte cette personne-là quitte le domaine et les sujets qui normalement lui sont attribués sur lesquels il peut régner, et il s'en va dans un pays très loin pour chercher l'autorité royale. Alors à ce moment-là, les gens qui écoutaient, c'était quelque chose d'actualité. Enfin, ils connaissaient ce sujet-là, et c'était le roi Hérode. Le roi Hérode, qui était en Palestine, il cherchait à avoir une autorité, parce que vous savez, quand un prince n'est pas roi, en fait, il est contesté par les autres princes, et souvent, ça se termine par des guerres civiles, parce qu'il faut une autorité légitime, quelqu'un qui a été investi de l'autorité pour régner sur les autres princes, parce que sinon, c'est la guerre. Et comme Hérode n'était pas roi, n'était pas investi de l'autorité, il a dû partir de Jérusalem pour aller à Rome. Et à Rome, il a demandé au Sénat, donc le Sénat a voté, a pris une décision avec César, pour lui donner l'autorité royale sur la Judée. Donc il est devenu roi, non pas en Palestine, mais à Rome, et il est revenu. Voyez-vous, donc ça parlait beaucoup. À cette époque-là, pour nous, ça ne parle plus, parce qu'on ne sait plus comment ça fonctionne. Mais Jésus a pris cette parabole pour dire que lui-même, hein, il est venu dans un premier temps comme serviteur, pour servir. Hein. Il était Dieu, mais il a quitté sa place de Dieu pour venir sur la terre, pour servir les humains. Et il va quitter cette terre, parce qu'il a donné sa vie, il va donner sa vie, et il va aller auprès du Père, pour être revêtu de l'autorité royale, pour revenir sur la terre. Et nous qui sommes ses sujets, qui l'acceptons délibérément en tant que chrétien, en tant que roi, nous pouvons déjà être sous son règne, mais l'ensemble des humains n'est pas sous le règne du roi, puisqu'il le rejette. Et d'ailleurs, à l'époque, au moment où Jésus a été crucifié, les gens disaient « on ne veut pas qu'il règne sur nous ». Et même que son sang retombe sur nous, enfin, c'était très très dur dans le rejet de la royauté de Jésus. Et là, il dit, ben, il va revenir, hein, et ensuite, après, il va faire les comptes. Donc en fait, c'est la notion du jugement qui va venir un jour sur l'ensemble des humains. Mais vous voyez, il y a cette transmission de la compréhension du royaume, hein, qui existe, mais qui en même temps n'est pas effectif, mais il est effectif sur les croyants, sur ceux qui acceptent Jésus comme roi. Donc ce noble dont parle Jésus dans ses paraboles n'était pas roi. Il a dû quitter le domaine, le peuple sur lequel il allait gouverner, pour aller chercher l'autorité, le droit de gouverner. Il s'en alla pour chercher un royaume, c'est-à-dire la royauté, l'autorité, ou le pouvoir royal. Le royaume et sa royauté, sa loi, son autorité, ça c'est le de Dieu, avant le domaine ou les sujets. Donc Jésus est devenu roi de Juda, le lion de Juda, comme l'appelle l'Écriture, du peuple de Dieu sur lequel il a autorité. Jésus n'a pas autorité sur tous les humains, en tout cas parce qu'il accepte le libre arbitre, la liberté de chacun, mais il a autorité sur ceux qu'il accepte comme roi. Donc il reçoit l'autorité. Je voudrais juste dire un mot sur autorité, sur le mot autorité. Autorité vient de auteur. Celui qui est l'auteur, et nous savons que Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu a créé l'univers, Dieu a créé toutes choses. Il est l'auteur, et donc il a l'autorité. Il a l'autorité des lois. Personne ne peut faire marcher l'univers différemment que Dieu. C'est lui qui l'a fait. Et donc, il a l'autorité. Ça renvoie aussi à l'obéissance. C'est vrai que les astres, les planètes, ils obéissent à ce que Dieu a fait. Et heureusement pour nous, parce que sinon, on pourrait dire que le ciel nous tomberait sur la tête si un jour le soleil arrêtait de graviter, la terre arrêtait de graviter, enfin tout ce système que Dieu a créé. Donc vous voyez, les choses obéissent à Dieu, simplement parce qu'elles n'ont pas de volonté propre. Les animaux, souvent, ils obéissent aussi, par leur instinct, mais ce sont les humains qui n'obéissent pas parce que Dieu les a créés à son image, il leur a donné une volonté propre. Et c'est toute la difficulté de l'humanité, c'est de ne pas comprendre qu'il y a un roi, qu'il y a un règne, qu'il y a un royaume, que Dieu est roi et que si nous obéissons à ses ordres, nous trouvons le bonheur. Et il y a quelques années, j'ai écouté la télé quand j'étais en vacances, et je crois que c'est le dimanche matin, ils ont différentes interventions. Et il y avait des philosophes autour du paquet de télévision, et aussi des pasteurs et tout ça. Et ils ont cherché à expliquer le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? On a entendu tout un tas de définitions du bonheur. Hein. Mais pas du tout cette définition-là. Enfin, si le pasteur a expliqué un peu, mais ils ne l'ont pas trop laissé parler. Donc, surtout les philosophes. Et c'est vrai que le bonheur, comment le définir, le bonheur? Eh bien, la Bible dit que nous sommes heureux si nous obéissons aux ordres du roi. Voyez-vous? Mais ça, c'est une notion qui ne peut pas rentrer dans notre compréhension, puisqu'on l'a connu, ça. Et ça a donné une catastrophe, puisqu'on a même du roi, parce qu'il n'y avait pas le bonheur. Hein. Il y avait toutes sortes d'exagération des impôts, le peuple était exempt tellement il y avait d'impôts pour construire des palais, des choses, etc. Mais avec Dieu, c'est le cas. C'est quand les planètes obéissent aux lois de Dieu que la vie peut exister. Quand toute la création que Dieu a fait obéit à cela, ça existe, sinon c'est le chaos. Voyez-vous ? Donc le bonheur vient du fait que nous obéissons. Et la difficulté du chrétien, c'est de comprendre qu'en obéissant à Dieu, eh bien, nous sommes heureux. Et sinon, nous ne le sommes pas. Donc l'obéissance est au cœur de l'autorité. Et les ordres sont aussi au cœur, parce que le roi, il donne des ordres. Dans quelque temps, je prépare un message sur le tabernacle et la compréhension du tabernacle par rapport à l'autorité. Mais au niveau du tabernacle, quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle et l'arche de l'Alliance, selon le modèle qu'il a vu dans le ciel, dans lequel Jésus a pénétré avec son propre sang pour recevoir l'autorité royale, Dieu donnait des ordres au-dessus des chérubins. Quand vous lisez Lévitique et l'Exode, vous voyez que l'idée, c'est que Dieu voulait rencontrer son peuple, parce que c'est un Dieu vivant, un Dieu qui règne, un roi qui conduit son peuple. Et le souverain sacrificateur était le seul habilité à rentrer dans la tente de la rencontre, dans le lieu très saint. Et il était le représentant du peuple. Mais il y avait tout un tas de conditions de sainteté pour pouvoir et ne pas mourir. Et là, Dieu se présenter au souverain sacrificateur au-dessus des chérubins, au-dessus du propitiatoire, c'est-à-dire là où le sang était versé pour être pardonné, et au-dessus de la loi qui se trouvait dans le coffre de l'Alliance, l'arche de l'Alliance. Et la loi renvoie à la parole, aux ordres de Dieu, à la loi, et Dieu donnait ses ordres. Il disait maintenant, vous pouvez lever le camp. Maintenant, vous restez. Et le souverain sacrificateur, il transmettait ses ordres au peuple. Et le peuple était conduit par Dieu, au travers du souverain sacrificateur qui entendait la voix de Dieu, donnait les ordres, Dieu donnait les ordres dans le lieu de la rencontre. Voyez-vous, donc, la notion d'ordre, d'obéissance, est liée à la notion d'autorité. Quelqu'un qui a autorité, il est supposé être suivi dans ses ordres. L'autorité, là c'est la définition du pouvoir, c'est le droit de commander, de pouvoir et d'imposer l'obéissance. Alors quand on voit ça, hein, sur le plan humain, on n'en veut pas. Hein. Et ça se comprend, parce que imposer l'obéissance, on a la notion de tyrannie derrière. Hein. Mais justement, il y a une différence entre autorité et autoritaire. Si vous prenez le mot autoritaire dans le petit Robert, vous trouvez cette définition. C'est celui qui aime l'autorité. Celui qui aime être obéi. Celui qui exprime le commandement, qui n'aime pas la contradiction. Et vous voyez que là, on est dans l'idolâtrie. L'argent, la Bible n'a rien contre l'argent. Par contre, elle dénonce l'amour de l'argent. À chaque fois que vous mettez amour devant quelque chose qui a été créé par Dieu, qui est vertueux, vous tombez dans l'idolâtrie puisque vous aimez quelque chose que vous mettez en avant. Et là aussi, l'amour de l'autorité, et ça c'est le problème justement des tyrannies, des royautés humaines qu'on a connues, et à part des exceptions de rois qui se laissaient vraiment conduire par le Seigneur, comme David, comme Salomon au début de son règne, etc., et d'autres. Mais aussi, il y a eu le fameux Saint-Louis, on a parlé de Saint-Louis, bon, qui était un homme intègre, qui a porté des jugements, etc. Il y a eu des rois qui étaient intègres, mais c'était l'exception. La plupart des rois, quand ils commencent à devenir importants, puissants dans leur règne, ils ont des lobbies, hein, des groupes de pression qui leur demandent des faveurs, etc. Et donc, ils commencent à aimer l'autorité. Et dès que vous aimez l'autorité, eh bien, vous commencez à devenir autoritaire. Mais Dieu, est-ce que vous croyez qu'il aime l'autorité? Dieu? Non, il n'aime pas l'autorité. Et il a l'autorité. Je veux dire, il n'a pas besoin d'aimer l'autorité, il était la source de toute chose. Voyez, on aime quelque chose quand on n'a pas le pouvoir, voyez, et qu'on essaie de le garder. C'est ça. Mais Dieu, il n'aime pas l'autorité, il a l'autorité, point. Voyez, et donc, il n'est pas du tout pris par l'aspect de l'idolâtrie que nous connaissons. Or, Christ a reçu l'autorité de son Père. Mais alors, c'est là qu'il faut bien comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se fait par étapes. C'est la complexité dont je vous ai parlé. C'est que Jésus-Christ a reçu l'autorité quand il est venu sur la terre il y a 2000 ans, sur les humains. Il n'est pas le roi sur les humains. D'ailleurs, on voit bien que quand les disciples le poussaient un peu dans ses retranchements, pour prendre autorité sur César, prendre autorité sur Hérode, etc. Jésus n'a jamais pris autorité sur les humains. D'accord ? Il a appelé des humains, il a appelé Pierre, Paul, enfin, de manière libre et responsable. Et d'ailleurs, très souvent, quand les disciples, Jésus parlait, ils disaient, mais Jésus, tu as des paroles dures. Parce que souvent les gens s'en allaient. Quand Jésus est confronté avec leurs propres vices, avec leurs propres problèmes, etc. Et il s'en allait, et Jésus disait à ses disciples, mais vous, vous voulez partir aussi? Vous pouvez partir? Jésus n'a jamais retenu qui que ce soit, jusqu'au bout. Et Pierre d'ailleurs a dit, non Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, je veux rester. Mais c'est de sa propre liberté que les disciples sont restés. Et c'est pour ça un chrétien, il est libre jusqu'au bout de quitter le Seigneur. Ce n'est pas du tout le problème du Seigneur. C'est notre problème à nous. C'est de décider de suivre. C'est pour ça qu'il y a ce chant qui dit, j'ai décidé. Hein, parce que ça, c'est notre libre arbitre, c'est notre volonté de suivre le Seigneur. Par contre, Jésus, quand il est venu il y a 2000 ans, il a reçu l'autorité sur Satan et ses démons. Ça, il l'a reçu au départ. Pourquoi ? Parce que Jésus dit bien à ses disciples, je suis venu pour détruire les œuvres de Satan. Jésus, il est venu une fois, il va revenir. Hein, il va revenir, là, à ce moment-là, il sera roi. Il sera roi sur les humains. Mais il y a 2000 ans, il était roi sur le domaine spirituel pour libérer. Parce que ce qui s'est passé avec les humains, c'est que dans le jardin d'Éden, les hommes étaient libres, Adam et Ève étaient libres, la race humaine était libre, et elle s'est aliénée aux paroles de Satan. Parce que Satan est venu, hein, il a séduit, il a tenté, et l'homme est tombé dans la tentation, alors que Jésus, qui lui aussi a été tenté par Satan, n'est pas tombé, mais le premier homme est tombé, et toute la race humaine est tombée avec lui dans la tentation. Et comme Dieu a fait l'homme libre, eh bien, il l'a laissé libre, mais il est venu apporter un sauveur pour lui redonner l'occasion de retrouver le contact avec Dieu. Et donc, ce que Christ est venu faire, c'est qu'il est venu rétablir toute chose. Ça s'appelle le rédempteur. Il est venu racheter ce qui était perdu. Et donc, il est venu racheter, il a donné l'occasion à tous ceux qui veulent retrouver la liberté première qu'ils avaient dans le jardin, de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir avoir une relation avec Dieu, de pouvoir, comme dans le jardin, Adam et Ève, parler avec Dieu. Ça, c'est ce que le chrétien retrouve au travers de la nouvelle naissance. Il retrouve ce contact. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur la relation avec Dieu et pas sur la religion. Dès qu'on parle religion, on parle idole, on parle idolâtrie, on parle amour de quelque chose, mais pas amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une relation, comme dans un couple, dans un mariage, on a une relation, communication. Mais Christ, quand il est venu il y a 2000 ans, il a reçu l'autorité, mais pas sur les hommes. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas obligés de lui obéir. Par contre, Satan et les démons sont obligés de lui obéir. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, vous voyez d'un seul coup dans le récit biblique, dans le récit du Nouveau Testament, vous voyez d'un seul coup les démons qui crient, personne ne leur a rien fait. Simplement, il y a Jésus qui est là. Et ils savent. Parce que dans le monde spirituel, ils savent celui qui a l'autorité. Ils savent que Satan a l'autorité puisqu'ils servent Satan, mais ils savaient aussi que Jésus avait l'autorité sur Satan. Et ils ont regardé ce qui se passait quand Satan a commencé à tenter Jésus. Ils ont vu que Satan, c'était terminé, hein, il n'avait pas l'autorité. C'était Jésus qui avait l'autorité. Et ça, ça se sait. Hein, c'est un peu comme ce qu'on dit, le téléphone arabe, hein, ça passe très vite. Hein. Et spirituel, les démons, ils ont vu que celui qui avait l'autorité, c'était Jésus, c'était pas Satan. Et c'est pour ça que Satan a immédiatement été détrôné de son autorité. C'est pour ça qu'il était furieux aussi. C'est pour ça qu'il attaquait Jésus. C'est pour ça qu'il attaquait les disciples et tout ça. C'est pour ça qu'il nous attaque. Parce qu'il sait qu'il a perdu. Il le sait. Parce que Jésus a reçu l'autorité de son Père sur Satan et ses démons. Et sur la maladie, qui est aussi une conséquence de la chute. Et sur la mort, qui est aussi une conséquence de la chute. Donc, quand Jésus est venu il y a 2000 ans, il avait l'autorité sur Satan, les démons, la maladie, les principautés, etc. Il a reçu l'autorité sur le peuple de Dieu. Parce qu'à la fin, il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Il y avait très peu qui l'ont accepté. L'ensemble des pharisiens l'ont rejeté. L'ensemble des sadducéens, c'est les gardiens du temple, l'ont rejeté. L'ensemble du peuple de Dieu l'a rejeté, alors qu'une semaine avant, il criait « Hosanna », etc. Mais bon, le Versa-t-il, hein. Donc, il n'y avait que quelques disciples, et à la croix, encore, les disciples sont partis, parce qu'ils avaient la trouille, ils avaient eu peur, etc. Et il y avait Marie, il y avait Jean, il y avait quelques disciples qui étaient là, les seuls. Vous voyez, donc il était roi de très petit nombre de gens. Mais il était roi. Mais c'était le début d'une royauté humaine sur les hommes, de ceux qui l'acceptent. Et c'était le début de l'Église. Ensuite, à la Pentecôte, c'est pareil, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont commencé à se faire baptiser, donc à obéir aux ordres de Jésus. Il a dit, vous baptiserez et vous enseignerez le royaume de Dieu, vous les baptiserez en mon nom. Donc voyez-vous, Jésus a commencé à recevoir l'autorité sur les hommes, sur un très petit nombre de gens, et c'est dans le temps que nous vivons, de l'Église, où cette royauté sur les hommes augmente, par ceux qui l'acceptent comme roi. Donc il est le roi des Juifs, mais il n'a pas reçu l'autorité temporelle sur les humains qui gardent leur libre arbitre de par leur volonté propre. Mais un jour, ce jour, nous y allons, un jour viendra le jugement et son règne temporel sera établi sur tous ceux qui lui obéissent et les autres seront écartés à jamais. Il y aura une séparation qui sera faite. Vous ne voulez pas obéir du tout, ok, vous allez avec Satan, et il n'y aura plus aucun moyen de communiquer avec eux, parce qu'il y aura un choix définitif qui sera fait. Donc, en attendant la plénitude du royaume. Donc, vous voyez, le royaume de Dieu est quelque chose de progressif, hein, au niveau des humains. Progressif, mais il est prévu une plénitude du royaume. Et cette plénitude, elle viendra avec le retour de Jésus. Donc ceux qui cherchent à échapper à l'autorité de Satan, aujourd'hui, le peuvent, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, à condition de toujours rester sous l'autorité de Christ. Nous ne pouvons pas avoir d'autorité en nous-mêmes, puisque nous sommes perdus dans cet univers, ce cosmos et ce monde spirituel que nous ne connaissons pas, et pour lequel justement Dieu nous demande de ne pas y toucher. Donc seuls, nous n'avons aucune autorité. Puisque nous nous représentons nous-mêmes. Nous n'avons pas d'autorité sur les lois naturelles, nous n'avons pas d'autorité. Alors, bon, les lois naturelles, on peut les utiliser, hein, c'est ce qu'on appelle la science. On peut les utiliser, mais on ne peut pas créer. On peut simplement utiliser l'énergie ou les lois pour pouvoir créer quelque chose. Mais nous n'avons pas d'autorité, nous ne pouvons pas changer la loi de la gravité, nous ne pouvons pas changer les choses. Nous n'avons pas d'autorité. Donc, seuls, nous n'avons aucune autorité, à part nous-mêmes, et encore. Puisque souvent, il y a des fonctionnements dont nous sommes esclaves. Donc, l'autorité, même sur nous, est relative. Mais nous sommes naturellement soumis à Satan, à cause de la chute, à cause de la chair. La chair est soumise à cause de la race qui a permis l'entrée de cette désobéissance. Mais comme dit Paul, grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous a libérés. Amen. Donc, naturellement, nous sommes esclaves, mais spirituellement, nous sommes libres. Et nous sommes dans cette tension entre les deux, et nous avons à faire des choix, parce que sans choix, eh bien, c'est le naturel qui revient au galop, comme on dit. Les gouvernants, le problème des gouvernants aujourd'hui, comme Jésus n'est pas en autorité sur les hommes, puisqu'il garde, il leur garde leur liberté, les gouvernants qui viennent en autorité légitime, donc ils sont élus par le peuple ou par les dieux, parce que les rois, avant, ils se cherchaient à trouver une légitimité par les dieux, que ce soit César qui descendait, soi-disant, bon. Il cherchait une légitimité pour être au-dessus des autres. Bon. Donc cette légitimité, il la trouve ou par le peuple, maintenant une démocratie, ou par une descendance divine. Il prétendait les rois qui descendaient... alors les rois chrétiens, ils ne disaient pas ça, mais ils prétendaient descendre de Judas, de Salomon. C'est pour ça que dans les pays chrétiens occidentaux, vous voyez tous les reproductions du temple de Salomon, parce qu'ils veulent descendre d'une légitimité de Judas, de David. Et donc, cette légitimité qu'ils reçoivent du peuple ou des dieux, en fait, les amène à dominer, puisqu'ils restent dans le système où ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils ne veulent pas être soumis à Dieu, ils ne veulent pas être soumis à Christ. Donc, ils sont soumis à leur propre déterminisme, et donc, ils dominent. Ce que Dieu a dit dans le Jardin d'Éden, au moment de la malédiction, eh bien, l'homme dominera. Et on est sous cette malédiction et on ne peut pas en sortir. Sauf avec l'œuvre de Jésus. Donc l'autorité est une des manifestations importantes du royaume de Dieu. Jésus, on le voit, il parlait avec autorité. Il chassait les démons. Rien que lorsqu'il prononçait un mot, il dit « sort », le démon sortait. Lorsqu'il prenait vraiment autorité, eh bien, rien ne pouvait l'arrêter. Il guérissait les malades. Elle dit maladie, tu sors. Et la maladie sortait. Quand il ressuscitait les morts, il dit Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Voyez-vous, toutes ces choses étaient sous son autorité. Et il règne sur la vie des hommes qui se soumettent à lui volontairement. C'est pour ça que nous devons être des disciples. Ceux qui se soumettent à leur maître. Mais ça, Dieu ne peut pas nous obliger. Il faut que nous nous soumettions d'abord. C'est pour ça que le chrétien, il passe par les eaux du baptême, parce que c'est la première étape de soumission. Je me soumets à Christ. Je veux être disciple de Christ. Je veux me soumettre à lui. Et ensuite, après, eh bien, on peut apprendre le règne de Dieu sur nous. Les disciples, la conséquence après, de ce disciple-là, de cette soumission, de cette autorité acceptée librement, ça donne l'autorité aux disciples. Voyez-vous ? On voit que dans la parole de Dieu, les disciples annonçaient la parole avec autorité, de la même manière que Jésus le faisait, à la Pentecôte, ce qui recevait le Saint-Esprit, et l'annonçait avec autorité, comme Jésus. Et l'autorité, l'audace et l'assurance, ils l'avaient non pas sur les hommes. Les disciples, ils n'ont jamais pris autorité sur César, ils n'ont jamais pris autorité sur les Romains, ils n'ont jamais pris autorité sur aucun homme, mais ils ont pris autorité sur les démons, sur les maladies, et ils ont chassé au nom de Jésus et sur les morts. Paul, par exemple, à Éphèse, il a annoncé la parole de Dieu, le royaume de Dieu, avec puissance et autorité. Et Jean aussi, à Éphèse. Éphèse était devenue, suite à cette intervention de Dieu, qui est une ville païenne de l'Asie mineure, avec l'adoration d'Artémis, est devenue la ville principale chrétienne du Moyen-Orient pendant des siècles. Jusqu'au IVe siècle, c'est là qu'il y a eu des conciles, qui ont été comptés, faits pour prendre les premières mesures de la chrétienté. Et voyez-vous, il y a eu un renversement d'autorité, simplement parce que la parole de Dieu a été annoncée avec autorité. L'église de Pentecôte, qui aussi est basée sur la démonstration du royaume de Dieu, de 25 à 60, a permis l'implantation rapide et durable du royaume de Dieu grâce à l'exercice de l'autorité du royaume de Dieu, la délivrance de la guérison. Et c'est ce que je suggère, c'est que l'église d'Aubergenville et l'église de France en général, eh bien là aussi, doit apprendre à annoncer l'évangile du royaume avec autorité pour transformer la société. Nous ne pouvons pas transformer la société par l'autorité seule, nous n'avons pas, mais l'autorité de Jésus. C'est pour ça que partout où vous êtes, bien laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Si vous avez quelqu'un à qui vous parlez, qui vous parle d'une difficulté, dites « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Vous priez. Notre rôle, ce n'est pas de guérir, nous n'avons pas la possibilité de guérir, nous ne sommes pas des guérisseurs. Mais nous avons l'autorité de Jésus. Et nous pouvons dire à cette maladie, « Maladie, maintenant, au nom de Jésus, tu sors. » Vous pouvez même le dire à voix basse, même dans votre cœur, peu importe, vous avez l'autorité. L'autorité sur les démons, si vous voyez qu'il y a une délivrance à opérer, vous dites, « Au nom de Jésus, tu sors maintenant. » Vous voyez, ça se fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on va évangéliser. C'est comme ça que l'autorité du royaume va se répandre. C'est comme ça que dans le monde entier, eh bien, le royaume de Dieu se répand. C'est quand les chrétiens prennent position sur la base de l'autorité qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Alors jamais sur les hommes, et c'est là que Satan intervient. C'est que Satan, il ne peut pas arrêter ce que Dieu a fait, hein, mais il peut dévier les choses. Et c'est pour ça qu'il pousse, et en particulier les responsables d'église, à utiliser l'autorité naturelle, voyez-vous. Et c'est là que ça dévie. Au niveau de leur façon de traiter avec les chrétiens, etc. etc. Mais même Jésus ne l'a pas fait. Donc pourquoi est-ce que les autorités spirituelles pourraient le faire? Si ce n'est que s'ils le font, ils dévient. Ils dévient. Et à ce moment-là, l'église s'arrête dans l'annonce de l'évangile, de l'autorité. Mais on reviendra là-dessus. Donc Jésus est en autorité pour ceux qui le reconnaissent comme uniquement pour eux. Et c'est là que traduit cette vérité, c'est qu'on peut être sauvé, hein, on peut accepter Jésus dans notre vie, sans pour exercer l'autorité du royaume, ni influencer la société. Simplement, le problème, c'est qu'on n'accomplit pas la mission que Dieu nous a donné. Jésus a pris d'abord 12 disciples, dans Luc 10, et il leur a confié la mission. Il a dit, voilà, je vous donne l'autorité, allez dans les villages, là, vous guérissez les malades. Il n'a pas dit, vous priez pour les malades. Il dit, vous guérissez les malades. L'autorité, c'est pas de prier. Et nous, en tant que chrétiens, on prie pour la guérison. Bon, vous priez, vous ne pouvez jamais prier pour la guérison. Quand les gens ne sont pas là, on prie pour la guérison. Mais quand on est devant une maladie, on dit maladie, cancer, tu sors maintenant au nom de Jésus. Il faut apprendre l'autorité. Bien sûr, si on le fait dans notre chair, ça va nous enorgueillir, parce que la personne est guérie, hop, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas de racine d'orgueil en nous. Et ça, c'est très difficile, puisqu'il faut apprendre la sanctification au passage. Mais ça n'empêche que la réalité, ça ne marche que quand on prend autorité. Je prends autorité au nom de Jésus, maladie maintenant, tu t'en vas. Démon, un tel, tu t'en vas. Ou pour les morts, vous prenez l'autorité pour que le mort ressuscite, etc. Voyez-vous ? Et ça, c'est la mission. Et si Satan ne peut pas vous empêcher d'être sauvé, et que vous êtes sauvé, que vous êtes disciple, il vous empêchera d'annoncer le royaume. C'est ça qu'il va faire. Donc il faut le savoir, et il faut réagir en cherchant à exercer l'autorité. En étant chrétien, on est appelé à exercer l'autorité du royaume au nom de Jésus. On est ambassadeur du royaume. On est ambassadeur de cette royauté que Jésus a reçue, puisque quand il a présenté son propre sang dans le temple, Dieu a accepté, le Père a accepté qu'il était souverain sacrificateur, et il l'a couronné de gloire et d'honneur. Il a établi roi de Juda. Et maintenant, tous ceux qui acceptent cette royauté, ils reçoivent l'autorité pour régner avec lui dans la vie, avec Jésus-Christ. Amen. mais toujours dans la faiblesse. Parce que Paul a dit, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens parfois qui sont atteints par la maladie. Alors, la maladie, c'est un sujet vaste et compliqué, donc je ne vais pas l'aborder là, mais simplement dire que parfois Dieu permet une maladie, simplement pour nous garder dans l'humilité. Et Paul, qui exerçait l'autorité du royaume, eh bien, plusieurs fois, il a demandé à Dieu, mais pourquoi cette faiblesse? Alors, on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est des yeux? Il ne voyait peut-être pas bien. Parce que, bon, il y en a qui écrivaient pour lui, des choses comme ça. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'il avait. Mais il avait un gros problème d'infirmité. Et il semblerait qu'il était petit déjà, et avec des yeux en mauvais état. Bon. Et il a demandé la guérison. Il n'a jamais obtenu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. Donc il faut accepter parfois des faiblesses. Je ne dis pas toutes les faiblesses, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet délicat. Mais quand on sait que Dieu nous a dit, je te laisse dans cette faiblesse-là, parce que là, tu vas pouvoir exercer l'autorité, c'est là qu'on a le maximum de résultats pour le royaume de Dieu. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à exercer, là c'est un autre type d'exercice de l'autorité, c'est l'autorité de ceux que Dieu place pour que la société ne soit pas menée au chaos. Donc, ces personnes qui sont en autorité, là aussi, l'ennemi cherche à corrompre cette autorité. Et là aussi, en tant que chrétien, nous sommes appelés à exercer l'autorité à la place de ceux que Dieu a placés. On est appelé à influencer la société en tant qu'ambassadeur du royaume. Ça, c'est une tâche que Dieu aussi nous donne pour être le sel de la terre, pour permettre à ce que pendant que l'Église est ici-bas, parce qu'un jour, la parousie, Dieu va nous enlever de cette terre, et ensuite, après, le chaos va s'installer, parce que justement, il n'y aura que la chair qui va agir. Mais nous sommes appelés à transformer la société avec l'Évangile du Royaume, au travers de l'intercession. C'est pour ça que nous allons vraiment monter la maison pour toutes les nations, pour que l'intercession soit au centre de nos préoccupations, pour que nous puissions prier pour les autorités qui sont en place, pour qu'ils puissent jouer leur rôle dans la société, que nous-mêmes, on puisse être en paix, qu'on puisse continuer à faire avancer le royaume de Dieu. Alors, il y a un certain nombre de références bibliques que je vous donne concernant l'autorité. Alors, il y en a beaucoup, donc on va aller vite, de ce qui sous-tend de ce que je vous ai dit là. Donc, vous avez Matthieu 21-23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il les enseignait, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, vinrent lui dire, par quelle autorité ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus lui répondit, je vous adresserai aussi une question, si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et vous, les sacrificateurs, ils n'étaient pas fous. Ils auraient bien aimé avoir l'autorité de Jésus, guérir les malades, etc., et chasser les démons, parce que ça leur a donné une importance. Ils auraient pu monter en puissance sur le royaume d'Israël, d'autant plus qu'ils savaient que ça se pratiquait. David avait cette autorité. Salomon, dans sa sagesse, avait cette autorité. Beaucoup de rois en Israël avaient l'autorité. En France aussi, on appelait ça les rois thaumaturges, les rois qui guérissaient les lépreux. Donc ils étaient installés au début du Xe siècle. Où il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Il y avait des choses qui étaient de cette nature-là. Et les principaux sacrificateurs, ils voyaient ça et ils disaient, mais de qui as-tu cette autorité? Ils voyaient l'autorité. L'autorité, c'est quand vous commandez quelque chose et que ça arrive. Que ce n'est pas simplement des mots en l'air. Vous dites, oui, ça va arriver. Non, ça arrive. Ça, c'est l'autorité. Vous commandez et les choses auxquelles vous commandez, ils obéissent. Donc l'autorité était remarquée chez Jésus. Dans Matthieu 1:27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Ils commandent avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et au passage, l'autorité, ce n'est pas le ton de la voix. Ce n'est pas si je crie très fort que j'ai de l'autorité. C'est si les choses que je dis arrivent. Vous pouvez très bien dire à un esprit tout doux, tu sors au nom de Jésus. Et ça. Je prends toujours cet exemple de ce professeur qui, à très grande distance, simplement par son passage, il avait pris autorité, alors que gens de l'éco-biblique, pendant des heures, ils ont voulu chasser, ils n'ont jamais arrivé. L'autorité, c'est quand ça arrive, quand ils obéissent, quand les démons vous obéissent, que vous avez l'autorité, quand la maladie est guérie, que vous obéissez. Donc on a du progrès à faire. Dans Matthieu 11, 28, ils lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Dans Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc là, c'est les autorités du monde, et là aussi, nous devons être soumis, comme Jésus lui-même a été soumis, il était soumis à César, il était soumis, il a donné les impôts, etc. Parce que le royaume de Dieu est d'une autre nature. On verra ça la prochaine fois. Dans 1 Pierre 2, 13, il est dit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, soit au souverain. » Dans 2 Corinthiens 10, « Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. » Donc là, c'est l'autorité. L'autorité, c'est pareil, elle est confiée aux anciens qui ont l'autorité de l'enseignement, l'autorité de recevoir les ordres de Dieu. Dans 13-10, c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification, non pour la destruction. Dans 1 Thessaloniciens 2-6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient, ni de vous, ni de vous. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Dans Tite, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Dans Éphésiens, là, ça concerne l'autorité de Jésus. Dans Éphésiens, chapitre 1er, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Et ces notions de siècle, on le verra aussi la prochaine fois. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça concerne Jésus. Dans Apocalypse, il est dit « Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Donc ça, c'est notre avenir à nous, en tant que chrétiens. Déjà, Jésus suppose que nous jouissions de l'autorité qu'il nous donne sur la terre pour guérir la malade, chasser les démons, ressusciter les morts. Mais dans cet exercice d'autorité, par l'autorité sur les nations. C'est-à-dire quand Jésus va revenir avec son Église, que nous serons avec lui, et il nous confiera des tâches d'autorité sur les nations. Et dans Apocalypse, chapitre 12, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les a devant Dieu nuit et jour. » Voyez-vous, Satan c'est l'accusateur. Satan veut nous accuser. Et il trouve toutes sortes de choses en nous pour nous accuser. Mais il faut résister à son accusation. Il faut venir sous le sang du Christ et régner avec lui dans la vie. Dans 1 Corinthiens, il est dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Ça, c'est la fin des temps. La fin des temps, c'est quand Jésus, quand Dieu a mis tous les ennemis sous ses pieds, eh bien, Jésus lui-même remettra l'autorité à son Père qui régnera. Et là, Satan ne pourra plus rien faire. Et tous ceux qui sont rebelles seront enchaînés avec lui en enfer. Et là, ce sera la paix pour l'éternité et la vie pour l'éternité. Et c'est là, vous voyez, l'autorité aura été remise au Père. D'où elle vient, d'ailleurs. La manifestation du règne de Dieu sur la terre, je vais terminer là-dessus, c'est l'Église en prière qui parle de cette prière que Jésus a apprise à ses disciples. Parce que, voyez-vous, les disciples étaient intrigués par Jésus, parce qu'ils le voyaient avoir l'autorité sur les éléments. Même, vous voyez, je n'ai pas parlé des éléments naturels, mais quand Jésus commandait à la mer de s'arrêter, la mer s'arrêtait. Les lois naturelles, ils obéissaient aux ordres de Jésus. ainsi que les lois spirituelles. Et les disciples étaient intrigués d'une part par la vie de prière de Jésus, parce qu'ils le voyaient prier. Il dit, mais donne-nous le secret. Et les disciples disaient, est-ce que Jésus, tu peux nous donner le secret? Comment prier? Parce qu'ils voyaient qu'au travers de la prière, Dieu lui parlait, son Père lui parlait, et dans la journée, il prenait autorité sur les malades, sur les esprits, sur les morts, etc. Et les disciples qui suivaient Jésus, ils étaient intrigués, ils voulaient savoir. Et Jésus leur a dit, voilà, vous faites cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et que ton règne vienne, que ton autorité vienne, que ton pouvoir vienne, que ta royauté qui est dans le ciel s'exerce sur la terre. Parce que sur la terre, c'est le seul endroit où les gens n'obéissent pas. Sur la terre, c'est le seul endroit où Dieu ne peut pas prendre autorité parce qu'il a fait l'homme libre. Et donc, il le laisse libre. Et il attend que les hommes comprennent un jour que leur liberté, c'est d'obéir aux ordres de Dieu. Et donc, il a dit, si vous voulez une vraie prière qui soit efficace, voilà, faites cette prière. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Voyez-vous, cette prière, si nous la faisons nôtre, si nous la vivons réellement, nous disons, Seigneur, oui, je veux exercer l'autorité, je veux faire avancer le royaume de Dieu, mais que ton règne vienne d'abord dans ma vie. Que tu puisses régner dans ma vie. Que je puisse te laisser ma vie, ma volonté, que je puisse vraiment te l'offrir, etc. Vous voyez, quand on a cette prière, quand cette prière est au cœur de l'Église, eh bien là, elle peut vraiment exercer l'autorité du règne de Dieu. Amen. Donc c'est un secret, un des secrets du royaume, c'est la prière du Notre Père, que Jésus a appris à ses disciples par la suite. La prochaine fois, c'est cette notion de siècle qui est une notion du royaume qui parfois nous perturbe un petit peu, mais qui va nous aider vraiment à intégrer ces tensions qu'il y a entre ce que nous vivons dans la chair et ce que nous vivons dans l'esprit. Et le Seigneur veut nous donner vraiment de régner avec lui. Amen. Et de pouvoir exercer l'autorité. Amen. L'autorité où les choses que nous commandons vont obéir à ce que nous disons. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur, tu es venu racheter toutes les choses qui ont été tordues, qui ont été brisées par la rébellion, que ce soit la rébellion de Satan ou la rébellion des humains, et notre propre rébellion, Seigneur. Souvent, dans notre propre vie, nous avons fait du gâchis parce que nous voulions faire les choses par nous-mêmes. Alors que Seigneur, si nous sommes sous ta royauté, si nous acceptons ta royauté, si nous acceptons ton règne, eh bien Seigneur, nous recevons l'autorité. L'autorité que toi tu as, Seigneur, tu la partages avec nous. Et Seigneur, au travers de ton esprit, nous pouvons commander, Seigneur, la maladie. Nous pouvons commander aux esprits impurs. Nous pouvons commander, Seigneur, aux morts. Nous pouvons commander aux éléments naturels, Seigneur. Mais tout cela, nous avons besoin de le faire dans l'humilité. Alors Seigneur, donne-nous vraiment de faire cette prière, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur humble, un cœur soumis, un cœur obéissant, et que Seigneur, nous puissions exercer cette autorité dans la puissance de ton esprit. Seigneur, comme l'ont fait les apôtres, comme l'ont fait tous ceux qui nous ont précédés, tous les témoins, Seigneur, qui nous ont précédés. Seigneur, nous voulons que tu règnes. Et que, Seigneur, tu fasses de nous tes enfants obéissants, Seigneur. Et qu'ainsi nous puissions entrer dans ta demeure et vivre pleinement dans ta grâce. Père, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.